veut voir réaliser. Et quelquefois, en pensant à ces projets, tout d'un coup, eh bien, il y a une joie. Il y a une joie et on dit, je suis sûre que ça va marcher, ça. Qui a déjà expérimenté cela? C'est un projet, hein. On dit, ah, oh, je suis sûre, j'ai cette conviction intérieure. Ah, oh, chaque fois que j'y pense, j'ai cette joie, etc. Et on se, la porte s'ouvre, on se lance dans le projet. Et alors là, c'est style, on se lance dans le projet comme on ouvre une porte d'ascenseur quand il n'y a pas d'ascenseur là. Lam! Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Non, hein? Non, moi non plus, jamais. Alors, ça, c'est... Et quelquefois, alors, on est parfois un petit peu confus, parce qu'on se dit, mais je comprends pas. J'avais une attestation dans mon cœur, j'étais certaine que ça allait marcher, j'avais cette expectative, j'avais cette joie, j'étais certaine. Alors, on se dit, ben, peut-être que je me suis trompé, peut-être que mon interprétation n'était pas bonne. Et c'est non, 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 non. Non, non, non. Cette joie était en quelque sorte une... On pressentait dans l'esprit ce qu'allait être ce projet une fois réalisé. C'était exactement cela, la joie que l'on avait était une bonne interprétation, c'était réel et c'était, ça correspondait à ce que ce projet devait être devant Dieu. Alors on se dit, ben, pourquoi ça n'a pas marché alors? Pourquoi y a-t-il une telle différence entre la réalité de ce projet comme en quelqu'un enceinte, la joie et le fait que ce projet a échoué, ça n'a pas marché? Pourquoi? Ben, c'est très simple, manque de prière. Dans la série, j'ai testé pour vous, ça m'est arrivé. Manque de prière. On a un projet dans l'esprit, il est réel. Il est réel. On a une joie. On se dit, c'est ça, je sais que je sais que je sais que ça va marcher. Tout est fait, tout est prêt. On se lance dans le projet, pom, on se heurte contre un mur. Pourquoi? Parce que le projet qui est de Dieu, réalisé tel que Dieu l'entend, effectivement. Mais si on ne prie pas pour ce projet, la joie dans le cœur n'est pas égale au projet manifesté matériellement. Et très souvent, les gens disent, oh ben parce que j'ai cette joie dans le cœur, parce que j'ai cette assurance dans le cœur, ça veut dire que ça va marcher. Non. Ça marchera à condition que tu passes ce projet au tamis de la prière. Si tu pries sous tous les angles pour ce projet, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise maintenant, vas-y, dans ces cas-là, ça réussira. Et oui, ça correspondra à la joie que tu as dans le cœur. Mais si tout ce que tu fais, c'est te lancer hors de la barque uniquement avec la joie qui atteste que ce projet vient de Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que ça peut aider quelqu'un, ça? C'est-à-dire, on ne se lance pas à l'eau uniquement parce qu'on a un projet dans le cœur et qu'on sait que ça va marcher. Ça, c'est ce que l'on voit, ce que l'on entrevoit dans le futur. Mais on ne fait pas, on ne réalise pas un projet de Dieu avec nos forces humaines. C'est Dieu qui commence et c'est Dieu qui termine. On ne touche pas avec la main de la chair un projet de Dieu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand ces deux hommes ont voulu porter l'arche de l'Alliance, hein, et l'arche de l'Alliance était transportée jusque vers la maison de David, et tout d'un coup, les bœufs, la manière dont ils sont déplacés, l'arche de l'Alliance a donné l'impression qu'elle allait tomber parce qu'elle penchait. Et ces deux hommes ont cru aider Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché l'arche et clank, ils sont morts. C'est-à-dire qu'un projet qui est une idée de Dieu, eh bien, c'est la prière qui doit précéder ces choses-là. et je referme la parenthèse. Mais la joie dans le cœur n'est pas une garantie qu'un projet réussit. Vous pouvez sourire parce que c'est une bonne nouvelle, là. Ça, je vais vous dire, c'est un tuyau qui vaut son pesant d'or. Uniquement sur cette joie, des tas de chrétiens se lancent à l'eau. Et ils coulent. Alors, je ne sais pas peut-être pour qui c'est, hein, mais peut-être que vous connaissez d'autres chrétiens qui ne sont pas là aujourd'hui et vous pouvez leur dire, moi je connais quelqu'un qui en ce moment est dans un projet et la personne avait tout préparé, mais tout préparé, top, top, top. Et cette personne est contre un mur là. Pourquoi ? Parce que ça respire, c'est évident, il n'y a pas la prière. La prière n'a pas réalisé ce projet. C'est par ses forces humaines. On peut réaliser beaucoup de choses avec notre intelligence, avec notre argent, avec nos connaissances. Mais un projet, il faut prier pour un projet. Vous croyez que Dieu a prévu quelque chose ? Croyez-vous que ce que l'on entend de la parole de Dieu, nous affecte. Qui dit ma vie est en train de changer avec la parole de Dieu? Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de louer le Seigneur. Alors, c'est quelquefois, les gens, ils me voient siffler. Hein. Ils me disent, oh, alors, une dame qui siffle. Et pourquoi pas une dame qui siffle? Il y en a bien qui font de la mécanique et il y a des hommes qui font de la décoration. Là. Hein. Ça, c'est un restant des Jeannettes. Les scouts, les Jeannettes. Je ne vais pas rester longtemps, hein, parce que non. Hein, moi, les feux de camp, là, ce n'est pas mon truc. Hein. Mais ceci dit, de temps en temps, je trouve ça marrant. Vous avez remarqué cette semaine, Antenne 2, pour ceux qui ont... je n'ai pas tout suivi, mais certaines, il y a une femme qui a été ordonnée rabbin. Vous avez vu ça? Oh, écoutez, c'est tellement touchant. Quand il y a un autre rabbin qui l'a couvert du châle de prière et qui a prié vraiment pour qu'elle reçoive l'onction. Alors, à la différence, c'est que son mari dit, ben moi c'est un grand jour pour moi parce qu'on vient me présenter en tant que le mari du rabbin. Ce que j'ai trouvé avec ces deux petits-enfants là, ce que j'ai trouvé vraiment marrant, c'est qu'elle arrive derrière le pupitre avec son gros ventre parce qu'elle attend son troisième. Et vraiment, les choses sont en train de bouger. Et quand on louait le Seigneur ce matin, je me disais, je peux vraiment dire que je n'ai jamais été aussi heureuse en tant que chrétienne. Je n'ai pas été plus heureuse à d'autres moments de ma vie. Ça ne veut pas dire plus ou moins facile, hein, mais plus ou moins heureuse dans ma vie de chrétienne, grâce à ce que j'ai compris de Dieu, grâce à ce que j'ai compris de Dieu en moi. Alors, je suis loin encore de tout ce que je veux voir et expérimenter. Et je peux dire vraiment, Seigneur, oh là là, c'est merveilleux d'être avec toi. Merveilleux. Non ? Qui dit oui, moi aussi ? Qui dit j'ai tellement mûri que je suis plus libre que ce que j'ai jamais été ? Moi, je peux dire. C'est pour ça que si j'ai envie de siffler, ça ne me dérange pas du tout, peu importe ce que les gens pensent. Ça m'est égal. C'est pas un péché. Hein. Gloire. Et le meilleur est devant. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens. Oh, gloire à Dieu. On va vraiment, vraiment être béni par Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1. Regardez. Verset 8. Est-ce que tout le monde trouve ? Il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Alors, c'est pas en Chine, c'était en l'équivalence de la région de la Turquie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera du tel mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous aussi, vous-même aussi, nous assistons par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de décrire ce que l'on pourrait appeler des situations de crise. Il a des mots très forts qu'il est en train d'employer et il dit nous sommes sortis de cette impasse grâce à vos prières. Et il dit parce que nous en sommes sortis, eh bien, nous avons pu rendre un témoignage qui a glorifié Dieu et plusieurs ont pu remercier le Seigneur pour la délivrance qu'il nous avait apportée. Alors, l'apôtre Paul parle ici de tribulation. Et les tribulations veulent dire très forte pression. Il dit, nous avons été accablés au-delà de nos forces. Et il dit, la pression était telle que on était arrivé au stade où il n'y avait plus que la mort qui était devant nous. On ne voyait plus d'autre issue. La seule chose qui restait devant nous, c'était la mort. On était dans une impasse. Et parfois, les gens passent par des situations dans leur vie où leur docteur leur dit « cas incurable, vous êtes arrivé en dernière phase, il n'y a plus que la mort ». Parfois, quelqu'un a une entreprise et la situation économique l'a tellement affecté que c'est la mort, la banqueroute. Parfois, c'est un couple qui se trouve dans une situation où c'est la mort, c'est le divorce. Parfois, et on passe par des situations où c'est la séparation sous toutes ses formes. Et il y a comme un arrêt de mort qui est prononcé sur nous. L'apôtre Paul était dans cette situation où il dit, nous désespérions d'un point de vue humain, nous désespérions humainement parlant, nous ne pouvions qu'admettre qu'il n'y avait que la mort. Quelquefois, c'est un juge qui dans certains pays carrément prononce la mort physique. Et pourtant, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y avait quelque chose en lui qui le faisait espérer à la délivrance. Regardez encore avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Paul dit, nous portons ce trésor, le trésor de quoi ? Le trésor de la présence de Dieu, le trésor de la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu manifestée, le trésor de la révélation, le trésor de la rédemption. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et il parle de vase, c'est pas quelque chose qui est fort, c'est le genre de poterie qui ne tient pas la route, qui se casse facilement à cause de ses défauts. L'apôtre dit, j'ai en moi quelque chose de divin, quelque chose d'éternel, quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, mais mon humanité fragilise tout cela. Et il parle de la fragilité. Il nous dit ensuite, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. » Quand je lis cela, je ne peux pas m'empêcher à cette fameuse fête des citrons. Parce que on en presse beaucoup. Hein, et l'apôtre Paul était dans une situation de sa vie où il se sentait pressé de toute manière, mais pas écrasé. Vous est-il déjà arrivé d'avoir la voiture qui lâche, puis un enfant qui tombe malade, et puis votre employeur qui vous annonce une nouvelle qui n'est pas du tout agréable, vous allez être muté dans tel service alors que vous n'en avez pas envie. Et puis ensuite, vous deviez vous rendre là, mais vous allez voir, c'est annulé à la dernière minute parce qu'il y a eu un changement de plan qui ne dépendait pas de vous, mais vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et vous avez l'impression que de tous côtés, vous êtes pressé. Vous êtes vraiment, de tous les côtés, c'est en train de venir sur vous. Et l'apôtre Paul nous dit, mais pourtant, nous n'avons pas été écrasés. Quoi que ce soit qui soit venu contre nous, ça ne nous a pas vaincus parce qu'il y a quelque chose en nous qui est plus fort que cela. Vous savez, les gens croient que quand on a des problèmes, on est obligé de perdre son sourire. Ça va avec. On est obligé de devenir triste. Vous savez qu'on a appris toutes ces choses. En grandissant, tu n'es pas content, montre-le. Oh, il y a quelque chose qui se passe que tu n'aimes pas. Dans ces cas-là, roule-toi par terre. Et on a été éduqué, quand on arrive dans le royaume de Dieu, eh bien on apprend que quand les choses sont difficiles, on n'est pas obligé de réagir de cette façon-là. Et puis on apprend que on peut être pressé de toute manière sans être écrasé. On continue. Il dit au verset 8, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. L'apôtre Paul nous dit, quoi que ce soit qui se soit passé, j'ai quand même réussi à faire la volonté de Dieu et à arriver jusqu'au bout de ma course. Et le plus beau encore, il nous avoue qu'il est arrivé jusqu'au bout de sa course avec joie. Il n'était pas amer, il n'était pas triste, en dépression. Et on va voir quel était le secret de l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul, malgré tout ce par quoi il est passé, et quand on lit la liste de ce qui lui est arrivé, il a fait naufrage, il a été trahi, il a été volé, il a été toutes ces choses, il n'y a rien qui l'a affecté. Parfois, on voit des chrétiens qui, alors bon, tout va bien dans leur vie et ils louent le Seigneur et ils servent le Seigneur et ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes. Et dès qu'il y a un problème, ils s'écroulent. Et on dit, mais c'est là le chrétien? On dit, mais je croyais que c'était quelqu'un qui était fort. Et on se rend compte que la mauvaise nouvelle qu'il vient d'entendre l'a complètement fait s'écrouler. Comme exactement une maison rongée par les termites, il suffit d'un petit truc, paf, cette maison s'écroule. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tant de chrétiens n'arrivent pas à recevoir les promesses de Dieu par la foi? Pourquoi? Parce qu'il faut être fort pour recevoir les promesses de Dieu par la foi. Pourquoi tant de chrétiens? On voit, ce sont des gens qui font une expérience magnifique avec le Seigneur. Ils rencontrent le Seigneur et c'est pratiquement le degré d'expérience que Paul a vécu sur la route de Damas. Si le Seigneur leur parle directement et ils ont une expérience surnaturelle, la puissance de Dieu est là, ils sont nés de nouveau, leur cœur est véritablement changé. Et ils marchent avec le Seigneur, mais alors dès que la tentation revient, ils n'arrêtent pas de succomber. Et alors évidemment, ils sont meurtris, ils sont blessés, ils se sentent coupables et ils sont mal à l'aise dans l'assemblée des justes, c'est ce que la Bible dit. Bon, finalement, au bout de X semaines ou mois, ils se relèvent et on se dit, bon, cette fois-ci, ils marchent avec Dieu. La tentation revient, ils n'arrivent pas à résister à ces choses-là. Et on s'est dit, mais comment se fait-il? Il y en a d'autres, ils n'arrêtent pas de se disputer. Ils n'arrêtent pas. Ça va bien. Eh ben, ils sont de bonne humeur. Et ça va pas. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Et moi, j'ai des questions. J'ai dit, pourquoi? Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Ça devrait bien se passer. Et en plus, Dans ces cas-là, on entend les gens qui sont bien disposés. On sent qu'ils veulent bien faire les choses. Pour d'autres, eh bien, ce sera un manque de discipline. Ils n'arrivent pas à se discipliner. Oui, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent pourquoi il faut le faire. Mais ils n'arrivent pas, ils manquent de rigueur. Ils ont ce quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'engager. On ne peut pas compter sur eux. Ils disent oui, ils le pensent, mais ils ne sont jamais là. Ils n'arrivent pas à se soumettre au leadership parce que tout le temps, leur chair se réveille et hop là, on les voit partir. Mais il y a cette régularité-là qui fait défaut, ce manque de discipline. Alors, toutes ces choses-là, bon, on pourrait schématiser, simplifier, dire, bah, tu sais, il y a certains, ils sont nés avec la discipline, certains sont nés avec la rigueur, certains, bon, oui. Mais il y a tellement de commandements du Seigneur qui nous disent qu'il faut faire à tous, il n'y a que quelques-uns qui réussissent à le faire. Donc ça veut dire que quelque part, il doit être possible de faire la volonté de Dieu et d'être qui la Bible dit que nous sommes. Qui aimerait bien avoir une réponse à ces questions? Regardez avec moi dans Ézéchiel. Chapitre 16. Ézéchiel. Bon, ça y est, j'ai perdu Ézéchiel. Chapitre 16. Regardez avec moi le verset 30. Alors, il est question de Jérusalem qui s'est laissée aller à l'idolâtrie, c'est-à-dire que dans leur cœur, quelque chose a retiré Dieu de la première place. Vous savez que Dieu doit avoir la première place dans nos pensées, c'est-à-dire que si on se surprend à penser contrairement à la Bible, on doit choisir de penser comme Dieu. Dieu doit avoir la priorité, la première place dans notre journée. Dieu doit avoir la première place dans notre mariage, dans les décisions du mariage. On va avec la décision de Dieu. Dieu doit avoir la première place dans l'éducation des enfants. Dieu doit avoir la première place dans nos finances. Dieu doit avoir la première place dans tous les domaines de notre vie. Dieu en premier, c'est ce qui s'appelle Dieu en premier. Et ici, de toute évidence, Jérusalem a ôté Dieu de la première place pour mettre autre chose. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et Dieu leur dit pourquoi ils sont tombés. Alors que ce soit dans l'idolâtrie, dans n'importe quelle forme de péché, ou que ce soit par manque de discipline, que ce soit par manque de foi, ici nous avons la raison. Verset 30. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, oracle du Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. La version Semeur dit « Oh, combien tu es faible pour avoir commis toutes ces choses !» Alors, nous avons la réponse dans ce verset. Quelqu'un ne peut pas résister à la tentation quand il a un esprit faible. Quelqu'un n'arrive pas à se discipliner quand il est faible d'esprit. Regardez encore avec moi dans 2 Timothée. Alors, parce que ça n'est pas forcément par manque de connaissances, c'est quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est faible d'esprit, c'est quelqu'un qui est faible dans la foi. Montre-moi quelqu'un qui est fort dans la foi, je te montrerai quelqu'un qui est fort dans l'esprit. Dans son esprit, qui a un esprit fort. 2 Timothée, chapitre 3. Alors, Timothée 3. Alors, il est parlé de tout ce qui se passera dans les derniers jours qui ont commencé depuis la Pentecôte. Hein. Nous sommes à la fin des derniers jours, cette fameuse dispensation qui précède le retour de Jésus et le retour où le peuple d'Israël est remis sur la scène internationale. Alors, il est parlé de rébellion, de gens égoïstes, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, etc. Verset 4, il nous est parlé aussi de religieux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ce sont des gens qui gardent une forme extérieure de piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captive certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Vous avez dans une autre version, il est dit, et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné. Un esprit faible. Pourquoi ces femmes sont-elles tombées dans le péché et pourquoi ont-elles été si facilement séduites? Parce qu'elles sont faibles, leur esprit est faible. Donc quel serait le contraire d'un esprit faible? C'est quelqu'un qui est fort spirituellement. Et vous savez que quand on est fort spirituellement, il y a des choses que l'on ne prend pas. Un exemple tout à fait naturel, j'ai deux terrasses et j'aime avoir des plantes sur les terrasses. Je trouve que ça fait comme une autre pièce, c'est très agréable. Et à un moment, je voyais mes plantes, il y avait vraiment des pucerons dessus. Et je me dis ça ne va pas. Alors, il y a un petit contexte, c'est que c'est vrai que les plantes étant sur une terrasse, l'air ne circule pas comme si elles étaient en plein air. Donc, c'est pas pareil. Mais je me suis dit quand même, peu importe ce qui se passe, ce sont mes plantes sur ma terrasse et elles doivent être en bonne santé. Non ? Parce que tout sous mon toit doit se porter bien. C'est comme ça que ça marche. Et alors, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Donc je suis allée voir un jardinier, je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit, donnez-vous à manger à vos plantes. Je les arrose. Il m'a dit non, donnez-vous à manger à vos plantes. Parce que si vous leur donnez suffisamment à manger, d'elles-mêmes, elles vont résister. D'elles-mêmes, elles vont en résister et les pucerons qui chercheront à venir sur elles ne iront sur des plantes plus faibles. Et ça m'avait tellement parlé, parce que c'est exactement quelqu'un qui est faible spirituellement, il s'attire toutes sortes de prophéties. Quelqu'un qui est faible spirituellement, il s'attire toutes sortes de mauvaises doctrines, c'est comme des aimants ces trucs-là. Quelqu'un qui est faible spirituellement, ben, il s'attire toutes sortes de séductions. Quelqu'un qui est faible spirituellement n'a même pas la force de résister à ce qui est mauvais. Il veut bien. Vous rappelez ce qu'il nous a dit dans Matthieu ? Il nous a dit, l'esprit est bien disposé. Il dit, veillez et priez, car l'esprit, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que la chair n'a pas en elle-même ce qu'il faut pour résister à la tentation. Vous avez compris ? Je répète, la chair n'a pas en elle-même ce qu'il faut pour résister à la tentation. Et la chair n'a pas en elle-même ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. Donc, nous résistons à la tentation, nous faisons la volonté de Dieu avec toute la discipline que cela implique. Mais c'est par notre esprit. Alors il est dit, effectivement, l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que moi, être spirituel, je tends à la volonté de Dieu. Je tends aux choses de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Mais vouloir n'est pas suffisant. Tous les chrétiens qui sont faibles, qui ont un esprit faible, tous veulent faire ce qui est bien. Mais ils sont faibles. Ils n'ont pas la force de faire ce qui est bien. Est-ce que vous voyez la différence ? Si on peut comprendre cela. Alors, quelquefois, on substitue la force au service. On se dit, si je sers Dieu, c'est que ça va. Non, tu ne fais que servir Dieu. Là où on sait si ça va, c'est quand tu es pressé de toute manière. Là, on sait si ça va. Là, on sait si tu es fort. Quand la tentation d'abandonner vient à ta place, comme l'apôtre Paul disait. Il disait, on était dans des stades, on se sentait abandonné, mais non perdu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'extérieur, les circonstances faisaient qu'on se retrouvait seul. Mais à l'intérieur, parce qu'on était fort en esprit, on n'avait pas perdu l'espoir. On savait au fond de nous qu'il y avait encore une solution, que Dieu nous délivrerait, qu'on se sortirait de là. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé les circonstances extérieures modeler sa vie comme de la vulgaire pâte à modeler. Pourquoi ? Parce que Paul était fort spirituellement, son esprit était fort au point que tout ce qui venait contre lui était obligé de changer parce que lui n'allait pas changer. C'était un roc dans la tempête. C'est pour ça que quelquefois on voit des chrétiens, on entend parler de gens qui servent Dieu. Et puis quelque temps après, on dit, mais attends, vu ce qui se passait, et ils sont tombés. On dit, mais comment ça se passe ? Parce qu'on substitue le service à la force. On dit, si quelqu'un sert Dieu, il est fort spirituellement. Non mais, faire les choses qu'on aime, vous savez, c'est plus facile. Mais quand il y a des choses qui viennent contre nous et qu'on n'aime pas, est-ce qu'on se décourage en tombant là ? Quelqu'un perd son travail, je sais plus où j'en suis là. C'est la fin du monde. Non mais, tu venais pas à l'église, t'as pas entendu la parole ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, ça veut dire que tu es faible spirituellement. Maintenant, Proverbe chapitre 4. Montre-moi quelqu'un qui est insoumis et je te montre quelqu'un qui est faible spirituellement. Montre-moi quelqu'un qui est faible dans la foi, qui n'arrive pas à croire jusqu'au bout, jusqu'au point où ses prières sont exaucées. Et tu me montreras là quelqu'un, tu me parleras de quelqu'un qui est faible, qui a un esprit qui est faible. Montre-moi quelqu'un qui dit oui sur le moment et puis qui se relâche très rapidement et tu me montres quelqu'un qui a un esprit qui est faible. Proverbe chapitre 4, il est dit à partir du verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, c'est-à-dire dans ton esprit. » Et il n'est pas parlé ici de la pompe naturelle, parce que sinon on pourrait garder dans les reins ou on pourrait garder dans les poumons, non. C'est « garde ces paroles » dans ton esprit, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, garde ton esprit plus que toute autre chose. Pourquoi ? Car de lui viennent les sources de la vie. Tu sais ce qui va donner la santé à ton corps? Ce qui sort de ton cœur. La médecine que nous avons dans le monde va soigner un corps de l'extérieur, va chercher à mettre des choses dans un corps. Tandis que la guérison qui se reçoit de Dieu est quelque chose qui est dans notre esprit et qui va affecter notre corps. C'est tellement, tellement vrai. C'est vrai pour la sagesse qui vient de l'extérieur. C'est vrai, quelqu'un qui est fort dans son esprit, c'est quelqu'un qui sait puiser de son esprit tout ce qui est nécessaire pour vivre. Combien de fois on ne blâme pas les autres? Si je n'arrive pas, c'est à cause d'un tel. Si ma vie ne tourne pas rond, c'est à cause de telles circonstances. Et l'apôtre Paul nous dit que même dans des circonstances étriquées, dans des situations de crise où humainement parlant, on n'a plus de force, où humainement parlant, dans notre chair, on est pressé comme un citron, ou on est même arrivé à admettre, il n'y a plus que la mort devant moi. L'apôtre Paul dit, il est possible de ne pas perdre espoir, il est possible de ne pas être abattu, il est possible de ne pas se sentir perdu, il est possible de continuer à croire que non, la situation va changer. Il est possible de se discipliner. Il est possible de faire ce que l'on dit que l'on fera. Il est possible de continuer à croire en dépit de tout ce que nos yeux voient ou nos oreilles entendent. Comment ? Si quelqu'un a un esprit fort et que de son esprit, eh bien, il peut puiser tout ce qui est en lui. Maintenant, regardez avec moi dans Proverbes. Chapitre 18, et c'est très très clair ici, dans ce chapitre. As-tu compris que la vie de ta chair vient de ton esprit? As-tu compris que la vie de ton être intérieur, la vie de ta chair vient de ton être intérieur? Donc si tu es faible spirituellement, cela va affecter ton corps et cela va affecter ton âme, qui fait que les gens sont de véritables yo-yo. C'est-à-dire, on ne peut pas compter dessus. Personne ne peut compter dessus. Regardez, Proverbe, chapitre 18, verset, alors ça c'est tip-top, 14. Il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Tu veux la réponse? Personne. Ce verset est tellement vrai que dans les hôpitaux, ils amènent des animaux, ils amènent des clowns pour relever l'esprit des malades, notamment des enfants, parce qu'ils savent, ils ne le diront pas comme cela, mais ils savent que si l'esprit d'un malade est fort, il s'en sort. Écoutez, c'est tellement vrai que j'ai rencontré des chrétiens, ben, notamment ma sœur, pour être la plus, pour avoir l'exemple le plus proche. Hein, merci. C'est que à un moment, elle manquait de fer, mais c'était une grosse déficience. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment de fer, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune force. Quelqu'un qui est extrêmement fatigué, quelqu'un qui est pâle, on ne peut pas vivre avec une grosse déficience telle qu'elle avait. Elle aurait dû se traîner. Et pourtant, tout ce qu'il y avait à faire, elle continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement forte dans son esprit que la force de son esprit portait la différence faisait la différence avec ce qui manquait dans sa chair. Dernièrement encore, quelqu'un me disait, tu sais, il y a ça, il y a ça qui me manque dans mon corps. Et le docteur lui disait, mais vous savez, je ne sais pas, je ne comprends pas comment vous arrivez à faire tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement actif. Il ne s'arrête pas dès que les yeux sont ouverts jusqu'à ce qu'il soit fermé pour aller se coucher. Il n'arrête pas. Et il y avait une grosse déficience dans son corps. Et le docteur dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que son esprit est fort. Pourquoi des gens, il leur arrive toutes sortes de choses dans leur vie. Il y a un enfant qui a mal tourné et ils ont reçu une mauvaise nouvelle au travail. Et le banquier vient de leur dire, à moins que dans 2 jours, il y ait quelque chose qui se passe, et c'est l'huissier qui va venir à la maison. Et ces gens n'ont jamais, jamais donné le sentiment, l'impression d'être perdus, d'être abattus. Pourquoi? Parce que dans la maladie, comme dans n'importe quelle situation, c'est la force de ton esprit. Si tu es forte, c'est cette force qui va te soutenir. C'est une force qui est spirituelle. Pourquoi les gens continuent à croire? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à exercer leur foi? Vous rappelez ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 4, Abraham, il était dit de lui, espérant contre toute espérance, il crut. C'est-à-dire qu'il y a des moments où à l'extérieur, on perd l'espérance. Mais il y a une espérance plus forte de l'intérieur qui peut prendre le relais et dire, je vais continuer à espérer en dépit de toute cette désespérance que je vois autour de moi. Combien il est important d'avoir un esprit qui est fort. On ne peut pas faire sans. Vous savez, quelqu'un qui vit une vie de succès, ce n'est pas une loterie en Dieu. Le succès n'est pas destiné qu'à certains. La réussite n'est pas uniquement attribuée par le doigt de Dieu. Toi, non, toi, pique-nique, non, non, toi. Ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, nous avons tous commencé dans les mêmes starting blocks en Christ. Et à partir du moment où nous sommes en Christ, eh bien, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Tout nous est donné, mais il y a une chose que Dieu ne peut pas choisir de faire pour toi, c'est d'avoir un esprit fort. Alors, parce que les nouveaux convertis, notamment, quelqu'un qui vient juste d'accepter Christ, c'est quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu nous donne, et évidemment que c'est ce que nous n'avons pas mérité. Quand quelqu'un accepte Christ, il y a la puissance de Dieu qui se saisit de lui parce que son esprit, il vient d'être recréé. C'est un être nouveau rempli de Dieu, fait par Dieu. Et Dieu veut imprimer cette nouvelle naissance en lui, cette rencontre avec lui, de telle manière que cette personne ne pourra jamais dire honnêtement, moi Dieu, je le connais pas. Si bien qu'au début de leur conversion, eh bien, vous avez remarqué la grâce qui est à la disposition des nouveaux convertis? Oh là 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 là, ils font une prière, mais c'est énorme les exaucements. Et il leur arrive toutes sortes de miracles, ils ont des expériences en Dieu, au point de rendre jaloux quelquefois certains aînés en crise. Enfin, bon, là, on passe sur le sujet. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont obtenu par leur foi, c'est la grâce de Dieu qui est venue pour les encourager et pour leur dire, voilà qui je suis, si tu acceptes de croire en moi. Et à cause de cette fameuse grâce de Dieu, c'est exactement comme une des choses, par exemple, un nouveau converti qui se drogue, la grâce de Dieu va venir sur lui à tel point qu'il peut se débarrasser de la drogue. Le pire, c'est que s'il ne se saisit pas de cette drogue pour se libérer de tout ce que Dieu veut le rendre libre, alors là, je vous explique même pas ce qui se passe. Parce qu'après, il sera obligé de recevoir par la foi et ça risque de prendre un peu de temps et de lui coûter beaucoup entre-temps. C'est pour cela, quand on sent la grâce de Dieu sur nous pour faire quelque chose, ça n'est pas très intelligent de la saisir et dire, tu sais, ça me plaît, gardez cela, mais je sais que ça me fait du tort, je sais que ça m'empêche d'aller avec Dieu, je vais m'en débarrasser parce que la grâce de Dieu est là pour m'aider. Est-il important d'avoir un esprit qui est fort? Oui, parce que la Bible dit que quand plus rien ne pourra te soutenir, quand plus rien ne pourra te soutenir, quand tu n'auras peut-être plus personne autour de toi pour prendre des décisions et que tu vas transpirer parce que la décision que tu as à prendre est tellement énorme que si c'est la mauvaise, elle fait basculer toute ta vie. La Bible dit, c'est le fait que tu sois fort en esprit qui va t'aider à résister à la pression. Qu'est-ce qui fait craquer quelqu'un? Ce n'est pas la pression extérieure, c'est le fait de ne pas avoir de pression intérieure qui résiste contre la pression extérieure. Tu sais que la pression extérieure ne peut pas briser quelqu'un. Mais si cet être-là est quelqu'un de fort, eh bien, il résistera. Il résistera à la pression de la tentation. Il résistera au désir d'abandonner. Il résistera à la peur. Il résistera à reprendre sa parole qu'il a donnée. Il dira, non, je dois faire cela. Ça me plaît pas. Je sais que je dois, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il est fort. L'esprit fort est ce qui fait la différence, qui nous soutient. Alors, sommes-nous une victime? Non, parce qu'on peut choisir d'être faible ou on peut choisir d'être fort. Et choisir d'être faible, la faiblesse, si on n'entretient pas la force, par défaut, la faiblesse prends le dessus, exactement comme l'honneur dont je parlais la semaine dernière. Si quelqu'un ne choisit pas d'amener l'honneur dans une relation, par défaut, le mépris va pousser. Est-il important d'avoir un esprit fort? Est-ce que vous vous rappelez de Josué et de Caleb? Alors que tout le monde, l'incrédulité s'était répandue dans tout le peuple d'Israël. Et l'incrédulité les a conduits à la rébellion. Mais Mais la Bible nous dit, dans Nombre 14, que cet homme était animé d'un autre esprit. Vous savez, il y avait combien de personnes à l'époque ? Environ 2 millions, 3 millions d'Hébreux qui étaient dans le désert. Deux personnes ont su résister à l'incrédulité, à la rébellion. Deux personnes ont gardé leur rêve et deux personnes sont entrées en terre promise. Et Nombre 14 nous le dit, je vous donne le verset 24, il était animé d'un autre esprit. Pourquoi Abraham a su rester fort dans la foi ? Parce qu'il était fort lui-même dans son esprit. Il y a cette force qui fait que si tu veux quelque chose suffisamment, tu finiras par l'avoir. Bien dirigé, mal dirigé. Mais quand quelqu'un est fort, quelqu'un qui est fort, c'est pas forcément quelqu'un qui a perdu la douceur. Parce que souvent, on associe la force à quelque chose de dur, à la brutalité. Et à vrai dire, Jésus est quelqu'un qui est extrêmement fort. Regardez à quoi il a résisté. Il a été capable de finir sa course. Et la Bible nous dit que c'était quelqu'un de doux et de humble. Donc l'arrogance ne trouve pas sa place. À vrai dire, l'arrogance est un signe de faiblesse. L'imbrutalité est un signe de faiblesse. L'incrédulité est un signe de faiblesse. La rébellion est un signe de faiblesse, même si la personne est un leader et qui est en train d'amener tous les autres dans la rébellion, qui parle fort, et l'image qu'on peut avoir de ce genre de choses. Et on dit, non. Un jour, je me souviens, il y avait deux serviteurs de Dieu qui s'étaient vraiment, qui s'entendaient pas du tout. Qui s'entendaient pas du tout, et à tel point qu'ils ont dû cesser de travailler ensemble et se sont séparés. Et je me souviens entendre un troisième serviteur de Dieu qui a fait un commentaire sur la relation de ces deux serviteurs de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, c'est vrai que deux personnes fortes qui travaillent ensemble, ça peut provoquer des étincelles. Et à l'époque, j'étais vraiment jeune. Je venais juste de mettre un pied dans le ministère, j'étais vraiment jeune, dans tous les sens du terme. Comme aujourd'hui, quoi. L'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein ? Voilà. Alors, je me souviens que j'ai entendu, et quand j'ai entendu cette phrase, mais deux personnes qui sont fortes, ça fait des étincelles, hein, parce que chacun veut mener à bien ce qu'il a décidé, et chacun veut rester avec ce borné. Vous vous rappelez ? Esprit faible et borné, comme il était dit tout à l'heure dans 2 Timothée. Et dans mon esprit, j'ai entendu le Seigneur me parler, et me dire, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'ils sont faibles qu'ils en arrivent là. Parce que la force n'a jamais tué personne. La force spirituelle n'a jamais conduit à la séparation. C'est au contraire parce qu'ils sont faibles qu'ils en sont arrivés là. Deux êtres forts ne connaîtront jamais ce genre de circonstances. Je n'ai jamais oublié ces paroles. Est-il important d'être fort spirituellement ? Alors, je suis sûre que plusieurs doivent se demander comment devient-on fort ? Vous vous posez cette question ? Revenez dimanche, parce que ça va être mon prochain message. Mais j'espère que nous avons saisi l'importance d'avoir un esprit fort et aussi fait la distinction entre être bien disposé et être fort. Hein? L'esprit est bien disposé, la chair est faible, c'est-à-dire que la chair n'a pas ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. Mais avoir un esprit bien disposé ne suffit pas. D'où la confusion des chrétiens qui n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu et quand on les entend, ils veulent faire la volonté de Dieu. À un moment, ils cessent de dire qu'ils veulent parce que personne n'arrive à les croire. Et pourtant, c'est vrai, ils le veulent, ils aspirent, mais ils n'ont pas la force de faire la volonté de Dieu. Donc, il doit être vraiment clair qu'avoir un esprit bien disposé, notre cœur, intérieurement, nous sommes remplis de Dieu. Nous avons été recréés par Dieu. Bien sûr que spirituellement, nous tendons aux choses de Dieu. Nous aspirons aux rêves de Dieu. Nous avons les désirs de Dieu. Dans notre esprit, nous sommes bien disposés. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons forts. Pour pas lâcher, pour pas douter si facilement, pour pas être aussi irrégulier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'être fort. Comptez dans la Bible combien de fois Dieu dit aux siens, sois fort et prends courage. Quelqu'un qui perd courage, c'est quelqu'un qui montre des signes de faiblesse spirituelle. Plus de 40 versets. Sois fort, sois fort, sois fort. Il y a des gens qui, pour justifier leur manque de force, vivent reclus. Dieu n'a jamais dit qu'il changerait le monde pour que nous devenions forts. En revanche, il nous a dit, vous êtes dans le monde, il va falloir faire avec. Mais si dans ce monde, tu es fort, alors tu vins ce monde. Sois fort, 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 sois fort. Eh bien, ça veut dire que ça doit être possible. Dimanche prochain, je vous donnerai la suite. Ah bah écoutez, vous avez suffisamment pour méditer cette semaine. Donc, faut digérer. Et peut-être évaluer. Si certains disent, ouh là là, tu sais, je pensais que parce que je faisais ceci ou faisais cela, j'étais forte, mais je me rends compte que, ben non. Alors, on peut préparer notre cœur et dire, Seigneur, la semaine prochaine, je vais entendre la suite. Je vais savoir comment être fort. Eh bien, je vais au moins préparer mon cœur. Et ce qui m'encourage, c'est de savoir que dans mon cœur, je suis bien disposée. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on voit la vie de certains chrétiens, il y a comme une espèce de doigt osseux, décharné, accusateur. Tu veux pas faire la volonté de Dieu, toi, non? Mais c'est terrible. C'est terrible d'avoir de telles accusations. Non, on veut. En étant fort, on va pouvoir. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ce message que nous avons entendu. Et Seigneur, nous aspirons à cette force. Nous aspirons, Père. Et tu es celui qui nous nourrit. Nous n'allons pas oublier ces paroles et nous allons pouvoir aider d'autres afin que ta volonté sur terre à travers nous soit accomplie. Sois béni, Père céleste, au nom de Jésus. Amen.